c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de La Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Air du Temps. Alors j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas vraiment le cas, eh bien, on essaye d'avoir de positiver, n'est-ce pas ? Vraiment le cas, je vous conseille d'écouter Yannick Noah qui nous dit comment faire.
Ferme les yeux, fais le vide, c'est ton souffle qui te guide. À l'intérieur, tout est fluide, fais la paix en toi. Entoure d'une parenthèse les tourments qui te pèsent, dis à tes peurs qu'elles s'apaisent, prends-les dans tes bras. Les couleurs tu les ressens, les silences tu les entends infiniment. Et ton cœur tu le comprends, c'est fou comme c'est enivrant d'être vivant. Respire, oh. Respire, namasté, respire, oh, respire, namasté. Namasté, merci au temps qui s'étire, lui qui s'étend nous guérir. Qu'à la fin on peut sourire aux peines passées. Merci au vent, à la pluie, à tous les orages aussi, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est. Merci enfin à la terre qui nous porte comme la mère porte l'enfant. Que cet amour nous imprègne pour toujours sous le soleil, exactement. Respire, oh, respire, namasté. Respire, oh, respire, namasté. No. plus rien ne trouble cet instant. C'est un cadeau, c'est un présent. Inspire. Existe.
Sur Radio Plus, c'est une nouveauté issue de son album Bonheur Indigo, le titre Namasté. Alors vous vous dites Namasté, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le geste Namasté symbolise la croyance qu'il existe une lumière divine en chacun de nous, situé dans le chakra du cœur. Et oui, et ce geste est un signe de reconnaissance d'une âme envers une autre âme. Namasté est couramment employé en Inde pour dire bonjour. Alors, namasté à vous et surtout très très bonne matinée. Alors, si vous passez cette heure avec nous, eh bien, nous serons tout d'abord avec Bertrand Trinel. Et oui, maintenant que l'automne est bien installé avec les premières feuilles qui tombent et sa beauté unique à laquelle s'allie encore la douceur, il y a, paraît-il, moins d'un Français sur dix qui aime cette saison avec son mauvais temps et la nuit qui tombe plus tôt. Alors vous n'avez pas le moral, pourtant une tasse de chocolat chaud après une balade en forêt à la recherche de champignons, eh bien c'est très agréable. Et Bertrand Trinel nous donnera, j'en suis sûre, d'autres raisons d'aimer l'automne, car il y a aussi beaucoup à faire dans le jardin et il faut en profiter. Et puis après Bertrand, eh bien nous retrouverons Jean-Louis Ouattet. Oui, là l'ordre est inversé, mais bon, il y a des choses que l'on ne peut contourner. Donc Jean-Louis Ouattet, président de l'Extrême Nature, pour notre rubrique Saletant sur la planète. Alors c'est une invitation au marché du mieux vivre qui nous adressera un rendez-vous qu'il nous donne chaque année avec son association pour mieux consommer afin de minimiser les impacts sur l'environnement et respecter les équilibres naturels. Mais bien sûr, Jean-Louis nous en dira plus. Et puis, en fin d'émission, nous nous rapprocherons de l'Association pour une Terre plus humaine qui organise jusqu'au 13 octobre une bourse aux livres au foyer François Albert de Béthune. Dans quel but ? Eh bien, la réponse avec Bernadette Capelle.
Chanson a le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut. On a volé. prison de la peine, une chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir, alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Sur Radio Plus, là aussi c'est une nouveauté car c'est extrait de son nouvel album Aime la vie. Alors cela fait quelque temps que l'automne est installé et alors dans notre enquête, pour notre enquête dans l'air du temps, eh bien nous nous sommes intéressés aux personnes qui aiment la pluie. Eh bien oui, en effet, il y a des gens qui aiment la pluie et qui donnent d'ailleurs des explications. Alors la pluie, c'est bon pour le teint, on a une excuse pour retomber en enfance et sauter dans les flaques d'eau et en portant des bottes en caoutchouc à motif régressif. Les autres disent que c'est pour le plaisir de rester au chaud sous la couette et d'écouter ou alors de regarder les gouttes d'eau sur les fenêtres. Et puis il y en a qui chantent carrément sous la pluie et certains disent même que observer les gens s'animer d'un seul coup, c'est formidable, les gens se dépêchent de se mettre à l'abri, mais en réalité ça les fait rire de se retrouver trempés au pas. Et puis il y a ce parfum qui se dégage après la fin de l'averse, là c'est surtout après une journée assez chaude. Et puis bien sûr il y a toutes les raisons que nous évoque Bertrand Trinelle chaque semaine pour les jardinages, pour nos nappes phréatiques, même si c'est un petit peu moins poétique. Et Bertrand, nous le retrouverons tout de suite après Sacha Distel.
Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie. Je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, oui même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau. Moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie. Que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi, Et même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oh je sais bien qu'après la pluie, vient le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps, et moi j'ai tout mon temps, et moi j'ai tout mon temps.
Voilà, c'était Sacha Distel. Alors, je ne sais pas s'il chante sous la pluie. En tout cas, je sais qu'il l'aime beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Octobre, à moitié pluvieux, rend le labour joyeux. Le jardin aussi, Bertrand, et le jardinier. Bonjour, Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors je ne sais pas, est-ce que vous chantez sous la pluie là? Je sais que vous l'aimez. Hein.
Je chante très mal, donc je ne chante pas sous la pluie.
Sous la douche peut-être.
Mais j'aime également le beau temps, le beau temps c'est un temps qui change.
D'accord.
Ici ça fait 3 semaines qu'il pleut, ce serait bien d'avoir un peu de soleil quand même.
Ah ok, bon d'accord. Alors, comment allez-vous? Ça va bien? Je vous garde un autre dicton d'ailleurs pour la suite de cette rubrique. Octobre, tout comme septembre, est un mois durant lequel les journées raccourcissent bon train, mais durant la journée il y a du travail au jardin, n'est-ce pas Bertrand? Alors déjà, on taille les arbustes à floraison estivale.
Alors, bien sûr, on peut déjà tailler les arbustes à floraison estivale. Hein. Ce sont les arbustes qui vont fleurir sur le bois de l'année. Mais vous pouvez très bien attendre encore et les tailler en février-mars, après les gelées hivernales. Donc, alors la taille qu'on va faire, ça va permettre d'aérer l'arbuste en supprimant toutes les branches qui sont superflues. Alors, surtout ne pas tailler de façon anarchique, hein, comme on le voit encore malheureusement dans certains de nos villages, hein, pas de taille en cube. Hein. Après la taille, l'arbuste doit conserver un port tout à fait naturel. La taille doit stimuler la formation de nouvelles pousses, de nouvelles fleurs, et ces arbustes vont fleurir sur le bois de l'année. Donc n'allez pas saccager l'arbuste en le taillant en cube, comme on voit encore malheureusement, j'ai encore vu il n'y a pas longtemps. Donc supprimez également tout le bois mort et les rameaux qui ont fleuri. Hein. Et puis, ben voilà. Et puis il y a quand même quelques plantes qu'il faut tailler un peu différemment au printemps, par exemple les lavatères. Les lavatères, ce sont des plantes qui ont une pousse très vigoureuse. Donc les lavatères, on peut les tailler à 10 cm du sol, juste au-dessus des bronchons de la base. Alors les lavatères, on peut également en faire des boutures en ce moment, parce que parfois elles gèlent et le pied meurt au bout d'un certain temps. Donc en faisant des boutures, vous renouvelez vos lavatères. Le buldia Davidi sera bas au niveau des charpentières pour avoir des toutes nouvelles pousses et puis avoir des belles panicules. Bon, bien sûr, on va pas tailler en ce moment, ni au printemps, les arbustes à floraison printanière. Si on les taille en février-mars, bah forcément on supprime toute la floraison qu'on aurait dans l'année. Donc les arbustes à floraison printanière doivent se tailler juste après leur floraison. Voilà en gros.
Les buddleias, il y a aussi, hein, je pense qu'on peut les. C'est-à-dire ce qu'on appelle les arbres à papillons. Hein.
Les buddleias, c'est ce que je dis. Les buddleias d'Amérique, oui, les arbres à papillons, hein, se rabattent très fort, eux.
Et alors, justement, on parle aussi des haies, Bertrand. J'entends les haies de conifères.
Aïe, oui.
Oui, bon, là, alors... je sais. Aïe, vous n'aimez pas, je sais.
Ce sont les haies qui en fin de compte, demandent le plus de travail, car les conifères, ce sont en réalité des arbres. Et ils sont destinés à venir très grands. Donc il faut les tailler 2 fois par an pour obtenir une haie qui soit bien fournie et qui reste bien verte. Alors la première taille doit avoir lieu en avril, début mars. Hein, et la seconde, ce sera fin août. Donc on essaye plutôt d'essayer de tailler la base un peu plus large que l'eau pour qu'il y ait toujours bien la lumière qui arrive. Et surtout, on ne taille jamais trop court une haie de conifère. Parce que si on taille toute la partie verte et qu'on arrive sur le bois qui est dépourvu de feuillage, ben dans ce cas-là, il y aura plus jamais de nouvelles pousses. Donc la haie va rester dégarnie, ou alors il faut rabattre des branches, des conifères à côté pour regarnir la haie. Bon, voilà.
Alors, et si on parlait des framboisiers? Alors, pour la taille des framboisiers, Bertrand, il paraît qu'il ne faut pas hésiter à garder quelques tiges sèches pour les insectes auxiliaires, très important.
Oui, c'est vrai. Donc déjà la taille des framboisiers, ça consiste à supprimer en août, septembre, voire octobre, les rameaux qui se dessèchent après avoir donné leurs fruits. Hein. Alors, on ne touche pas aux tiges encore bien vertes en ce moment, parce qu'il y a encore des framboises en ce moment, bien des framboises pour les remontants, et ni au niveau de pousses, mais on peut en supprimer quand même quelques pousses, bien toutes les chétives. Alors, on peut aussi apporter à leurs pieds un bon compost de fumier, car les framboisiers ont besoin d'une bonne terre bien humifère pour produire. Et effectivement, on peut donc garder quelques tiges sèches pour les insectes auxiliaires qui vont s'abriter dans les boutons floraux qui sont un peu dégarnis, dans les trucs de fleurs, tout ça. C'est très, très bien de conserver quelques tiges sèches.
Quelques tiges sèches.
Voilà.
Alors, en parlant d'auxiliaires, eh bien, c'est la Saint-Serge aujourd'hui. Et il y a un dicton qui dit « À la Saint-Serge, la charrue en terre pour niveler les taupières ». Alors, on rappelle que les taupes sont précieuses pour le jardinier. Et pourtant, rares sont les jardiniers qui aiment les taupes.
Alors, oui, c'est vrai. Donc, les taupes ont mauvaise réputation. Mais pourtant, elles sont bien précieuses pour les et de bien précieuses auxiliaires pour les jardiniers. Nous avons débarrassé d'un grand nombre de larves. Nous débarrassons des larves, des limaces, de vers blancs, de taupins, qui, eux, vont occasionner beaucoup plus de dégâts que ferait la taupe. De plus, leurs galeries vont aérer le sol et drainer le sol. Lors d'éjection, il faut le savoir aussi, les éjections des taupes, ça va enrichir le sol. Donc, c'est très bien pour nos plantes. Et les galeries, ce qu'on ignore aussi, c'est qu'elles favorisent aussi la propagation du mycélium, ce qui est très bon pour la mycorhization. La mycorhization, c'est... Vous savez, le mycélium, c'est les champignons du sol qui se soudent, qui vont se souder aux racines des plantes, qui vont apporter de la nourriture aux plantes, les faire monter dans les feuilles, photosynthèse, sucre élaboré qui redescendent et qui nourrissent les champignons. Donc c'est une symbiose entre les champignons et la plante. Donc c'est très bien pour nos plantes. Donc le jardinier doit tout simplement apprendre à cohabiter avec les taupes. Alors, on peut bien sûr, il y a certaines plantes qui sont répulsives, on peut mettre, si on veut pas de taupe à tel endroit ou tel endroit, mais une plante répulsive, alors on va mettre le forbé purge. Alors, le forbé purge, le sureau c'est pareil, mais le forbé purge, c'est une plante, si vous la mettez dans votre jardin, les taupes vont venir autour des racines, vont tourner autour des racines, ça va pas avoir un effet répulsif. Pour que l'effet soit répulsif, de même que les feuilles de sureau, on en fait un purin. On fait un purin, donc 1 kg pour 10 litres, on fait un purin de feuilles d'épurge ou de feuilles de sureau. Et puis quand le purin est fait, au bout de 8 jours, on va en mettre dans les galeries, ou alors on le dilue à 20% et on arrose la surface du sol, on ne veut pas voir les taupes arriver. Et ça, c'est un très bon répulsif.
En tout cas, pour les faire fuir, surtout ne pas mettre de verre pilé dans les galeries, car la taupe n'est pas hémophile, comme certains le prétendent, et c'est donc une méthode cruelle. Et puis alors, surtout pas de naphtaline non plus, car celle-ci est un pesticide chimique nocif, très dangereux pour l'environnement, et très cancérigène. C'est un cancérigène peu biodégradable. Et à propos de... N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, Bertrand?
Mais tout à fait, tout à fait.
Et justement, à propos de poison, Bertrand, il y a 400 000 plantes décrites dans le monde, dont 2500 utilisées comme poison. Et en tout cas, il y en a plantes ou fleurs qui sont très toxiques.
Alors, c'est vrai, il y a énormément de plantes toxiques. Alors, que ce soit dans notre maison, par exemple, les ficus, les chlorophytons, oui, le yucca ou encore le poinsettiaire, puis bien d'autres, hein, il y a plein de plantes toxiques dans les maisons. Mais également dans le jardin ou dans la nature. Hein. Par exemple, le coton nacère, les euphorbes, le pyracantha, le daphné très toxique, le laurier rose très toxique, les azalées, les fleurs sont toxiques, les rhodos, les ancolies, les primevères, les aconites, les digitales, même les tulipes sont toxiques, les jacinthes sont toxiques, la glycine est toxique, tout est toxique dans la glycine. Alors, quelques-unes sont mortelles en cas d'ingestion, puis d'autres vont provoquer uniquement des vomissements. Bon, c'est déjà ça. Hein. Bon. C'est comme ça, il y a plein de plantes dans la nature, c'est pas parce qu'elles sont toxiques qu'on ne doit pas les côtoyer. Hein, c'est pas non plus un véritable problème. Bon, après, il y a des animaux qui sont sensibles à certaines plantes. Hein. Par exemple, pour certains légumes, on va être toxiques pour nos chats et nos chiens. Il faut le savoir. Alors, on sait déjà que le chocolat, par exemple, si on donne du chocolat à un chien et à un chat, on peut le faire mourir. Bon, mais pour les enfants, il faut surtout se méfier de la fructification et des graines de certaines plantes. Hein. Par exemple, un citis qui fleurit jaune au printemps, qui est magnifique, est très toxique, et les graines, quelques graines ingérées par un enfant, sont mortelles. Donc il faut faire très attention. Le datura sauvage, comme un datura horticole, hein, quand on est dans la nature, c'est pareil, toutes les feuilles sont toxiques, toute la partie est toxique. Donc il y a beaucoup d'empoisonnement, surtout au Canada, on trouve beaucoup d'empoisonnement avec le datura.
D'accord. Voilà. Donc oui, comme vous dites, surtout faire attention aux enfants, faire attention et à nos animaux domestiques. Et alors, puisqu'on parle un petit peu de fleurs là, Bertrand, peut-on planter maintenant les bulbes de printemps?
Ah oui, effectivement. Donc si on veut avoir un printemps bien fleuri, très gai, très joli, eh ben c'est le bon moment pour planter les bulbes de printemps. Hein. Leurs fleurs vont nous réjouir après la période estivale un peu morne. Hein. Voilà. Donc alors, surtout, quelques conseils, choisissez les bulbes les plus gros, hein, de beaux gros bulbes, ce sont eux qui vont vous donner les plus belles fleurs. N'hésitez pas à les planter suffisamment profondément, parce que parfois on voit, on fait un petit trou, on met le bulbe, non, c'est environ 3 fois la grosseur du bulbe. Alors, pour, par exemple, le bulbe, un gros bulbe comme celui d'une fritillaire impériale, devra être planté environ 25 cm de profondeur. Un beau bulbe de tulipe à 20 cm de profondeur, donc c'est déjà profond. Hein. Et pour les jonquilles, ce sera une 15 cm. Donc après, il faut faire attention aussi, certains bulbes sont très appréciés des rongeurs. Donc il faut les, à ce moment-là, les placer dans des petites corbeilles, ou alors vous préparez un grillage, vous mettez le bulbe dedans pour avant de le mettre en terre, pour effectivement les protéger. Bien sûr, vous laissez la partie supérieure ouverte pour que la feuille puisse sortir.
Oui, bien sûr.
Voilà. Allô?
Oui, non, je suis là, j'essaye de faire des réglages, sinon bon. Alors justement, et puis on peut penser aussi un petit peu aux légumes. Lors d'une des dernières émissions, Bertrand, vous nous avez dit que dans un jardin en carré ou une jardinière dans lequel il n'y a plus de légumes, on peut semer de l'engrais vert, hein, genre moutarde, tout ça, et vous nous avez un petit peu parlé de la mâche aussi. La mâche, on rappelle que c'est un légume plein de vitamines et qui a beaucoup d'autres propriétés, justement, que l'on peut planter actuellement.
Alors effectivement, c'est une très bonne idée. Alors la mâche a de nombreuses propriétés, elle contient des vitamines A, B et C, et puis de nombreux sels minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, il y a le silicium, il y a du zinc, etc. Donc on peut semer sans problème les mâches, ou repiquer maintenant, parce que semer c'est peut-être un peu tard, mais ça peut encore marcher, mais ou en repiquer. Donc on sème la mâche après une autre culture. Hein. On est juste en égalisant un peu le sol, car la mâche a... n'aime pas les sols trop aérés, donc elle aime bien les sols qui restent fermes. Mmh. Alors, une astuce également, si vous avez récolté vos graines de mâche ou si vous avez acheté un paquet de mâche, on ne sème pas les graines d'un an. Il faut préférer celles de 2 ans qui vont germer beaucoup mieux. Les graines d'un an vont quasiment pas germer. Donc, les graines de 2 ans. Et puis, pour une meilleure germination, vous pouvez aussi, avant le semis, les entreposer quelques jours au frigo. Ça va favoriser la levée de la dormance. Et puis surtout, après le semis, il faut que le sol reste en permanence humide. Bon, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais parfois, au mois d'août, quand on sème les premières mâches, eh ben, si le sol est trop sec, les mâches ne poussent pas forcément. C'est un peu comme le persil, il faut que le sol soit humide.
Alors, c'est à présent au président de l'Association des paysages des jardins des hommes que je m'adresse. J'ai une petite question en tête, Bertrand. Les cigognes ont-elles quitté le jardin de l'ermite, qui est, je le rappelle, le jardin de votre association et qui est situé à Averskerque?
Alors, les cigognes migrent, effectivement, mais avec le réchauffement climatique, certaines deviennent sédentaires. Alors, c'est marrant parce que, justement, samedi matin, on remettait les diplômes de jeunes jardiniers aux enfants de nos cours de jardinage, et une cigogne est venue juste planer au-dessus des enfants. Ah, c'était magnifique. Et puis, elle est allée se poser sur le nid qu'on a au jardin de l'ermite. Donc, c'était un superbe spectacle. Donc, certaines migrent et d'autres restent sédentaires actuellement.
Et les vôtres, j'ai l'impression qu'elles sont bien chez vous, quoi.
Elles sont bien. Je crois qu'elles aiment bien la région.
D'accord. Okay. Elles aiment le jardin de l'ermite. Donc,
jardin de l'ermite, voilà. Elles aiment bien le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, c'est bien.
Donc, elles sont encore visibles. En tout cas, merci Bertrand et je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain.
Oui, à lundi prochain et bonne semaine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
De la rosée encore humide, l'es-tu, que fais-tu là? Tout en haut de la pyramide, quelle marche en montagne. Verte de feuilles et du cœur tendre, on t'entend murmurer tout bas les mots de ceux qui viennent se vendre. Choisissez-moi, choisissez-moi. Pourtant les pieds sur terre, l'es-tu, que fais-tu là? L'éducation chez les bonnes sœurs, elle te sert à quoi? Te voilà comme l'apprenti mère, à bulletiner dans les cabas et dans les mains des maraîchères. Choisissez-moi, choisissez-moi. 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 Que fais-tu, que fais-tu là?
J'ai des gens cotés à la hausse, retournés sans foi, ou ramassés par un pauvre type qui a jamais la gueule de l'emploi et chante encore pour le principe. Choisissez-moi, choisissez-moi. Pencher dans les rades, se raconter dans ton état, c'est se raconter des salades, il y en a qui aiment ça.
Et alors, on va retrouver tout de suite Jean-Louis Ouattet qui, lui, ne nous raconte pas de salade, contrairement à Maxime Le Forestier. Alors, figurez-vous que j'ai retrouvé Jean-Louis Ouattet dans la gare d'Amiens. Donc, vous voudrez peut-être bien excuser les petits bruits que l'on entend. Bon, voilà. Mais enfin, Jean-Louis est avec nous.
Sur la planète. Drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Voilà, bah on vous entend pas mal finalement.
Ça va, c'est bien.
Oui. Alors aujourd'hui, on oublie un petit peu les sujets brûlants, hein, comme les pesticides, et on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Mais pour vous, cette époque de l'année est marquée par votre action phare, c'est-à-dire le marché du mieux vivre que vous organisez avec votre association, et ce sera dimanche prochain.
Oui, tout à fait. C'est un temps fort pour l'association, malgré le travail continu et intensif toute l'année. Le marché du mieux vivre, c'est maintenant une date importante du calendrier. C'est un rendez-vous important, car c'est un moment de sensibilisation, mais aussi d'échange, de convivialité que beaucoup de personnes apprécient. C'est l'occasion de faire passer des messages, de sensibiliser, mais aussi avec tous nos partenaires médias, d'être reconnus. Donc un temps important pour l'association.
Alors justement, donc sensibiliser le public à ces petites choses qui font que chacun peut vivre en parfaite harmonie avec son environnement. Et alors, il faut dire aussi que visiter ce marché apporte une sensation de bien-être et d'enthousiasme. Bon, les mentalités changent et vous avez conscience que l'optimisme et la pédagogie sont les meilleurs atouts pour faire changer les choses dans le bon sens.
Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a rien de pire que l'agressivité, la virulence, le pessimisme pour faire passer un message. Je suis convaincu que la convivialité est essentielle pour obtenir l'écoute et l'adhésion. Il faut être diplomate, pédagogue. On fait tout pour que ce marché reste varié et convivial. Et ça nous permet de fidéliser le public. Beaucoup de nos visiteurs reviennent chaque année avec plaisir. Et ce, d'autant que l'entrée est gratuite, il faut le signaler, ça c'est important.
Et un marché qui fête quand même son 30e anniversaire.
Oui, tout à fait, le temps passe vite. On peut à la fois mesurer les progrès, comme par exemple pour les produits bio, qui sont aujourd'hui en pleine expansion, mais vérifier aussi avec l'urgence climatique et puis les dangers qui menacent la biodiversité, la justesse des messages que l'on essaye de faire passer depuis 30 ans.
Alors, avec chaque année un thème différent, et cette année l'accent est mis sur la pollinisation de nos champs et de nos jardins grâce à la petite abeille sauvage trop souvent oubliée et qu'il faut protéger.
Oui, en fait, les abeilles sauvages sont encore trop souvent les oubliées de la pollinisation. Quand on parle des abeilles, on pense tout de suite au miel, aux ruches, mais on oublie que l'abeille domestique n'est qu'une abeille parmi près de 1000 en France. Alors, elles sont solitaires pour la plupart, elles ne vivent pas en colonie comme l'abeille domestique, et n'ont ni reine, ni ouvrière, ni territoire à défendre, mais ce sont des agents pollinisateurs de premier ordre. Elles aspirent le nectar des fleurs, collectent grâce à leur poil de leurs pattes le pollen pour nourrir leurs larves, et assurent ainsi au passage la reproduction d'un très grand nombre de plantes à fleurs. Ajoutons à cela que le fait qu'elles n'attaquent jamais, sauf exception, elles peuvent piquer, mais vraiment si elles se sentent en danger de mort. Donc c'est quand même pas un danger pour le public.
Alors rapidement, Jean-Louis, très rapidement, vous nous faites faire le tour des stands. Il y aura des nouveaux stands cette année.
Oui, tout à fait. Cette année, on a 46 exposants, à peu près 25% de nouveaux. Bon, comme par exemple un fabricant de spiruline de l'Étrême, un nouvel exposant pour du thé bio, les plantes aromatiques et médicinales, les épices de Madagascar. Et puis surtout, il y aura des animations pour les enfants, par exemple, repiquage de plantes avec l'association Les Mains Vertes, construction de nichoirs abeilles, etc. Donc, beaucoup de nouveaux exposants cette année.
Alors, comme chaque année, eh bien, ça se passe à l'espace culturel Jean de la Fontaine à l'Étrême. C'est de 10h à 18h et vous l'avez dit, l'entrée est gratuite. Important.
Oui, tout à fait, à l'intérieur de la salle, et puis il y aura aussi quelques exposants à l'entrée à l'extérieur.
Alors, comme mieux vivre, eh bien, c'est bien entendu mieux manger, donc bien sûr sans pesticides, tout ce qui est mis à la vente en tant que denrée est naturel, mais vous poussez bien sûr le bouchon un peu plus loin avec une restauration possible le midi, et dans l'assiette il n'y a que du bio et du local.
Oui, c'est l'une des rares manifestations qui propose d'abord une buvette bio toute la journée et un repas entièrement bio le midi à un prix plus que raisonnable à 14 €, ce qui démontre qu'avec un peu de recherche et de volonté, on peut faire évoluer son alimentation avec des produits de qualité qui respectent l'environnement, des produits de saison, des produits locaux, sans affecter son budget.
Alors, et bien sûr, il faut réserver son repas, hein, c'est compréhensible, ce qui permet, on le comprend bien, d'éviter tout gaspillage alimentaire, car c'est aussi ça la bonne attitude. Hein.
Oui, le nombre de places étant limité, le volume du repas aussi étant fixé, il faut donc retenir d'avance, si possible, pour une bonne organisation. À noter qu'il y aura deux services, l'un à 12h et l'autre à 13h15, donc on peut réserver par messagerie, par téléphone, par SMS, donc aux adresses habituelles.
Aux adresses habituelles que l'on trouve aussi sur votre site.
Voilà, tout à fait, qu'on retrouve sur notre site internet. Et puis sur toutes nos publications.
D'accord. Alors Jean-Louis Ouattet, merci. Eh bien, nous serons donc à ce marché avec notre petit panier pour les éventuels achats de produits sains ou de petits objets artisanaux, mais aussi pour les différentes documentations que vous mettez à la disposition du public. Car c'est que vous l'avez dit, il y a sensibilisation.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de documentation et donc. C'est justement ce temps de sensibilisation, d'information sur lequel nous travaillons beaucoup.
Jean-Louis, merci. Et puis donc, nous nous retrouverons le 28 octobre et on vous dit à bientôt.
À bientôt. Bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Je ne connais pas le nom des fleurs. Et ça m'attriste, celui des arbres guère plus d'ailleurs. Je peux n'en faire qu'une courte liste. Je ne connais pas ces noms latins qu'on donne aux plantes, celles qui ne s'ouvrent qu'au matin, celles que le soleil oriente. Lacune presque anodine, connaissance superflue, pour qui comme moi très peu jardine et n'escalade plus les branches jusqu'aux cimes, et fait peu de bouquets, mange peu de fruits acides, cueillis sur les bosquets, citadin. J'ai un trou de mémoire anodin, avec mon arrosoir dans les mains, à qui je donne à boire. J'en sais rien. Je ne sais pas nommer les oiseaux, ça me chagrine. Les longues pattes dans les roseaux, les démarches de ballerines, à la manière dont ils volent. Savoir s'ils migrent, savoir s'ils chassent ou batifolent, à la manière dont leurs ailes vibrent. Lacune presque anodine, connaissance superflue, pour qui perd son âme féline et se met peu à l'affût, n'exerce plus son oreille à distinguer les cris de ceux qui nous réveillent au petit matin gris. Citadin, j'ai un trou de mémoire anodin, en apportant au square mes bouts de pain, en faisant une mangeoire de mes mains. citadin, j'ai un trou de mémoire anodin, un oubli dérisoire, mais enfin, ça touche au désespoir.
C'était Renan Luce sur Radio Plus, cet extrait de son nouvel album Bleu Marine. Alors voilà, avec Bertrand Trinel, avec Jean-Louis Ouaté, nous avons vu que certains font en sorte que cette terre reste saine. Eh bien, il y a des personnes qui œuvrent aussi pour que cette terre devienne plus humaine. En 1969, se crée l'Association pour une terre plus humaine en écho à la campagne mondiale contre la faim et pour le développement. En effet, comme chacun sait, il y a l'Inde qui brille et puis l'Inde de la pauvreté avec plus de 800 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Depuis plus de 40 ans, donc, cette association pour une terre plus humaine entretient des relations avec des populations intouchables ou tribales en Inde, et c'est Jean Cappel qui est à la présidence. Bernadette Cappel, bonjour.
Bonjour. Et merci de me recevoir aujourd'hui pour parler de l'association pour une terre plus humaine.
Alors Bernadette, nos auditeurs ont appris à vous connaître lors d'entretiens précédents en tant que présidente de l'association Mère solidaire pour la paix, dont le principal objectif est d'aider les femmes afghanes. Mais aujourd'hui, cet entretien, vous me l'accordez pour cette autre association que préside votre mari Jean Cappel, en train d'œuvrer pour récolter des fonds afin d'en financer les projets de développement. Et on en parle tout de suite. Mais d'abord, je vous laisse nous la présenter, cette association pour une terre plus humaine.
Comme vous l'avez dit, c'est en 1969 que l'association fut créée par Ferdinand Ditt, un ingénieur des mines de Lens, qui s'était rendu en Inde dans un cadre professionnel, qui fut ému par la misère qu'il a vue là-bas et qui, à son retour, a décidé de faire quelque chose pour faire évoluer la situation.
Et donc, il a créé cette association qui commence quand même à avoir de l'âge, 1969, oui. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette association, son historique, ses objectifs, beaucoup à dire aussi sur ce pays qu'est l'Inde, l'unique terre, comme le disait Mark Twain, que tous les hommes souhaitent voir, et quand ils l'ont vu, ils ne donneraient pas cette vision pour tous les spectacles réunis du reste du monde. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'en parler un de ces jours avec son président. Ce que nous pouvons déjà dire aujourd'hui, Bernadette, c'est une association qui, elle aussi, est beaucoup tournée vers la femme.
En effet, car Ferdinand a tout de suite émis l'idée que pour développer le niveau de vie, cela passerait par les femmes et par l'éducation. Aussi, avec une Française infirmière et religieuse des missions étrangères qu'il avait rencontrée là-bas, ils ont mis en place un atelier de kalamkari. Le kalamkari, c'est une peinture végétale sur coton qui représente souvent des scènes de l'hindouisme, l'hindouisme étant la religion majoritaire de l'Inde à 82%. Les femmes, généralement des femmes seules, recevaient dans cet atelier une formation et un salaire. Et en échange, elles s'engageaient à envoyer leurs enfants à l'école pour que ceux-ci n'aient plus à travailler ou à manger. Et cet atelier fonctionne encore de nos jours.
Alors, justement, j'ai presque envie de dire que l'Inde est un très grand pays, 6 fois la France quand même, hein. Alors, où est la priorité? Dans quelle région est la priorité?
Alors, il faut d'abord que j'ajoute que parallèlement à cet atelier, un centre de soins a été créé. Je vous l'ai dit, Sœur Madeleine était infirmière. Donc, au départ, elle y soignait les lépreux, puis ce fut la tuberculose, et maintenant c'est le sida. Le sida qui a fait des ravages en Inde. Le centre, qui a pour nom Pretisharan, qui signifie « maison de l'amour » en Telugu, accueille des malades qu'il faut remettre en état. Un médecin va chaque matin faire des consultations dans des villages aux alentours et l'après-midi, les consultations ont lieu au centre. Et tout cela gratuitement. Des travailleurs sociaux vont dans les quartiers pauvres et les villages pour sensibiliser les habitants à la prévention et s'assurer du suivi des traitements. Le centre accueille aussi des enfants orphelins, dont l'un des parents au moins est mort du sida. Ce sont des jeunes séropositifs qui nécessitent un suivi médical. Il y en a en ce moment une dizaine, puis totalement en charge par le centre. Le centre se situe dans l'Inde du Sud, à Cavally, Cavally étant une ville à environ 200 km au nord de Chennai. Chennai est le nouveau nom de la ville de Madras, qui fut un comptoir français.
Alors, bien évidemment, Bernadette, on comprend donc que pour soutenir ces actions, l'association organise beaucoup de manifestations, des expositions ventes dans plusieurs villes du département et aussi des foires aux livres ou alors des bourses aux livres. C'est quoi, Bernadette ?
Alors, l'association a besoin, pour assurer le fonctionnement du centre, de 1100 euros par mois. Cet argent, nous le gagnons en organisant 4 bourses aux livres par an. À Arras, la semaine de l'Ascension, à Aire-sur-la-Lys, la deuxième semaine de juin, à Béthune, la deuxième semaine d'octobre, et à Lens, la deuxième semaine de novembre. Toute l'année, nous récupérons des livres qui nous sont donnés. Ces livres sont triés, rangés par thème et revendus lors des bourses aux livres. Et par la même occasion, nous exposons les calamkaris et les tissages fait par les femmes. Le prix de vente de ces articles est envoyé à l'atelier pour participer au salaire des femmes. Il y en a actuellement 30. Nous fonctionnons en partenariat avec une association de Toulouse. Une exposition de calamkari aura d'ailleurs lieu à la chapelle Saint-Jacques d'Aire-sur-la-Lys le 30 novembre et le 1er décembre prochain.
Et alors actuellement, il y a une bourse aux livres à Béthune.
Oui, la bourse aux livres commence cet après-midi à 14h. Actuellement, ils sont en train de mettre en place la salle au foyer François-Albert de Béthune. Ce sera ouvert tous les jours de 10h à 18h30 jusqu'au dimanche vers environ 16h.
Alors justement dans cette... c'est vrai que les gens lise à nouveau. Hein. Justement, dans ce genre, dans ce genre de manifestation, qu'est-ce qu'on peut y trouver un petit peu comme genre d'ouvrage ?
Alors, comme je vous l'ai dit, nous récupérons toutes sortes de livres. Et tous ces livres sont classés. Les romans qui sont les plus nombreux sont classés par ordre alphabétique et tous les autres livres sont classés par thème. Alors, on y trouve histoire, policier, des livres de poche, de cuisine, de santé, des livres pour des enfants, des BD, quelques scolaires, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque normale, dirais-je. Mais comme on nous apporte des livres tous les jours lors des expositions, ces livres sont remis tout de suite en vente. Tout de suite, ils sont rangés et remis en vente. Les prix sont très bas, entre 1 et 3, 4 euros pour des livres pratiquement neufs.
D'accord. Donc, ça vaut forcément le détour, Bernadette.
Ça vaut le détour.
Et donc, on allez-y.
Oui.
J'allais dire, rappelle le rendez-vous.
Oui, à partir de cet après-midi, 14h, et tous les jours, jusque dimanche 13, de 10h à 18h30.
Voilà, de 10h.
On peut venir acheter, mais aussi apporter des livres encore en bon état, dont les personnes voudraient se débarrasser.
D'accord, donc 10h à 18h30, et c'est au foyer Albert à Béthune.
Voilà.
Pas loin du centre de Béthune, je dis ça.
Pas loin du centre-ville.
Voilà. Bernadette, merci, et puis, eh bien...
Merci à vous.
On attend Jean Capel pour nous en dire plus sur cette association en tant que président. Il aura son mot à dire.
D'accord. Bien sûr.
Merci Bernadette, on vous souhaite donc bon courage parce que bien sûr vous vendez à ses côtés et aux côtés d'autres membres de l'association. Donc on vous souhaite bon courage et puis très très bonne semaine à vous. Merci pour cette intervention.
Merci.
À toi qui as souffert, toi qui as de la peine. Chaque jour que Dieu fait à ce chemin sur lequel on s'aime, à toi qui doutes, perdu aux portes du désert, à chaque ciel d'engrais, à ce cette route qui sort de l'univers. Chaque geste de paix, comme au premier jour, laissons-nous vivre ensemble, ont nos mains qui tremblent, laissons passer l'amour, l'amour en premier, à chaque geste de paix, chaque jour que Dieu fait, à chaque geste de laissons-nous vivre ensemble, nos mains se rassemblent. Laissons passer l'amour, l'amour en premier, à chaque geste de paix, chaque jour que Dieu fait. À toi qui penses que la terre est mal faite, chaque lune bleue de craie, à cette idée qu'on a de nous-mêmes, à toi qui sais parler à ceux qui désespèrent, à chaque instant si c'est vrai, à cet amour qu'on a pour notre peine, à chaque geste de paix. Laissons-nous vivre ensemble, ont nos mains qui tremblent. Laissons passer l'amour, l'amour en premier, à chaque geste de paix, chaque jour que Dieu fait.
Et oui, laissons passer l'amour, toujours, toujours et partout où que l'on soit. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques instants avec Kaléidoscope pour laisser passer là, cette fois, la musique. Sinon, je vous souhaite une très très bonne semaine.